Il est 8h23.
France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
L'invité du grand entretien est ce matin sociologue, professeur à l'université Paris Diderot. Il travaille sur les croyances, la crédulité. Il a présidé la commission sur les lumières à l'âge numérique, commission qui a rendu mardi son rapport au président de la République. Vos questions, amis auditeurs, 01 45 24 7000, passez autrement par les réseaux sociaux ou l'application mobile de France Inter. Bonjour Gérald Bronner.
Bonjour Nicolas.
Et bienvenue au micro de France Inter. Cette commission avait pour but de décrire ce que vous appelez les désordres informationnels de l'espace numérique, les fausses nouvelles, les manipulations, la désinformation, les intox, et de mesurer donc les effets qu'elles ont sur le débat public et la vie démocratique. La voie est étroite entre la liberté d'expression, au fondement de la démocratie, et le débat éclairé, qui en est également l'une des conditions. Vous formulez un constat, des propositions, dont on va parler dans un instant. Mais d'abord, les deux critiques qui vous ont été faites. Cette mission a été voulue par le président de la République, le rapport est remis en pleine campagne présidentielle. Que répondez-vous à ceux qui y ont vu la volonté de l'exécutif de définir un cercle de la raison, en somme, avec des bonnes et de mauvaises opinions ?
Je leur réponds d'abord que j'essaye de décorréler mes propres intentions de celles du président de la République, dont je peux supposer des tas de choses, mais ça ne m'avancera pas beaucoup. Ce que je crois, c'est que, effectivement, j'aurais préféré qu'on me demande ce genre de rapport, pour être tout à fait franc, il y a un an, il y a deux ans, dans d'autres conditions, avec une pression électorale qui ne serait pas celle-ci, mais vous me connaissez, on s'est déjà rencontrés, vous m'avez déjà invité, et vous savez que, depuis plusieurs années, j'essaye de porter un discours pour alerter, pour attirer notre attention sur un certain nombre, disons, d'externalités négatives de ce qui est en train de se produire. Et donc, je ne me voyais pas, en tant que professeur des universités, refuser cette demande de rapport qui va, je crois, je l'espère, dans le sens de
même
l'intérêt général.
Même si le contexte, donc, à vous entendre, n'était pas parfait.
Oui, parce que dans ces conditions, on aurait pu faire exactement le même genre de remarque deux ans avant, parce que de toute façon, ce serait le président de la République qui envoie ce genre de lettre, disons, de commande. Et donc, quel que soit le président de la République, je rappelle d'ailleurs que j'avais accepté des missions du quinquennat précédent sous François Hollande. Moi, je me considère comme fonctionnaire. Si le président de la République me donne une mission qui me semble être d'intérêt général, j'ai du mal à dire non.
La composition de la commission a également fait l'objet de critiques. Un membre a dû en démissionner. Il y a pu avoir des doutes sur la légitimité ou sur les options idéologiques de tel ou tel. Ne faut-il pas être impeccable quand on réfléchit à un sujet pareil ?
Il le faudrait sans doute, mais alors moi ça fait vraiment longtemps que je ne crois plus à la pureté, je pense que si on fouille chez chacun d'entre nous, on trouvera toujours des choses à contredire. Ce qui est vrai, c'est que j'ai surtout insisté pour cette commission, pour insérer, si je puis dire, des membres qui étaient des chercheurs. Et vous aurez remarqué qu'on a des historiens, des sociologues de haut niveau, des politistes de haut niveau, un juriste spécialiste, Bertrand Van Rusfeld, spécialiste du droit numérique et professeur de droit public à Paris 8, et aussi de journalistes, un spécialiste du conspirationnisme, etc. Et il est vrai, avec tout de même, dans la période que nous vivons, une considération aussi pour la parité. Notre groupe, il est paritaire. Et puis, j'ai tenu quand même à ce qu'il y ait des acteurs qui ne relèvent pas immédiatement de la recherche, mais qui, par leur prise de position publique, un intérêt pour ces questions.
Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet. On peut tous être étonnés par la vigueur ou la violence des échanges sur les réseaux sociaux, par les informations douteuses ou carrément fausses qui y circulent. Après vos travaux, qu'en dites-vous ? Quelle est l'ampleur de ces désordres informationnelle, la situation est-elle grave tout simplement ?
La situation est certainement très préoccupante pour deux raisons. Je dirais qu'il y a deux menaces qui sont à l'horizon. La première, c'est le risque de faire en quelque sorte émerger des réalités parallèles. Et on a déjà vu ces réalités parallèles apparaître, c'est-à-dire que nous vivons la même société, mais plus tout à fait dans le même monde, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que nous avons un rapport au réel qui est en quelque sorte diffracté. Et ça, c'est terrible, parce qu'évidemment, la démocratie a absolument besoin de la controverse, du débat. C'est ça la démocratie, c'est ne pas être d'accord, évidemment, parce qu'une démocratie libérale, notamment, est fondée sur des contre-pouvoirs. Il est donc tout à fait essentiel de cela, de penser cela.
Et là, c'est la juxtaposition de réalités qui n'entrent plus en débat.
Exactement, parce que pour débattre, encore faut-il avoir des arguments commensurables, c'est-à-dire qu'ils sont dans le même monde intellectuel. Or, ce qu'on observe, on l'observe très fort aux États-Unis et on commence à l'observer en France, c'est une sorte de fracture de notre socle commun. Et ça, c'est évidemment inquiétant. La deuxième inquiétude, qui est presque plus immédiate encore, puisqu'on parlait quand même du moment électoral que nous allons vivre, c'est la perturbation par des ingérences étrangères malveillantes qui sont tout à fait attestées dans des élections précédentes qui pourraient peser, dénaturer les élections, pas forcément dans ses résultats. Parce qu'il ne faut pas non plus exagérer la puissance de l'influence de ce genre de choses, mais par exemple sur la narration de ces résultats. Peut-être que les résultats ne changeront pas, mais peut-être que l'idée que l'on se fera de ces résultats sera différente. Par exemple, on pourrait croire que l'élection a été truquée, volée, et on voit aux États-Unis que quand même qu'une grande partie des républicains reste sur cette mythologie.
Quelques mots encore sur le constat. Vous montrez surtout que c'est le modèle même des réseaux sociaux qui est au cœur du problème. Leur architecture, les informations sont noyées dans une masse de contenu de divertissement, ce qui ne nous encourage nullement à la vigilance cognitive, rempart pourtant essentiel à la crédulité. Fin de citation. C'est donc le flux continu, la timeline qu'on scrolle, désolé pour les anglicismes, à l'infini, c'est ça le problème ?
Oui, le problème c'est que nous sommes en quelque sorte naturellement dotés d'outils critiques, d'outils rationnels. Nous ne sommes pas fondamentalement irrationnels, nous avons des outils pour nous défendre, seulement l'environnement numérique et notamment algorithmique il provoque des logiques que nous n'apercevons pas, que nous ne comprenons pas parce qu'elles sont opaques et qui effectivement nous détournent d'un jugement raisonnable, serein. On voit bien que les réseaux sociaux s'enflamment de façon permanente. Et la question, elle se situe à la fois dans le fonctionnement des algorithmes et aussi dans le fonctionnement de notre cerveau. C'est pour ça que c'est assez délicat à régler. Et on propose 30 recommandations. Je dois vous dire qu'on aurait pu en faire 2000 en réalité, mais on a essayé de choisir les 30, disons, qui nous paraissent les plus saillantes.
Vous définissez la fausse information comme un contenu d'information, donc faux ou inexact, ayant ou non été délibérément créé et diffusé pour induire les gens en erreur. S'il y a des faux évidents, est-ce que ça ne devient pas beaucoup plus compliqué quand on entre, par exemple, dans l'idéologie ou le discours politique ?
Mais absolument, il faut bien se garder d'appliquer ce genre de normes au discours, par exemple, qui relève du bien et du mal, un discours moral, un discours politique, c'est pas du tout ce que notre rapport veut faire. Nous insistons surtout sur ce que l'on peut appeler une forme de, comment dirais-je, une diversité inauthentique.
Expliquez-nous.
Alors la diversité inauthentique, c'est absolument essentiel, la diversité en démocratie. Il faut que chacun puisse se faire entendre. Et c'est la même chose pour les réseaux sociaux ou pour les plateformes vidéo. Mais par exemple, lorsque une enquête de 2019 a montré que si vous utilisez la plateforme YouTube pour chercher des informations sur le climat, eh bien, vous avez plus de 50% de chances de tomber sur une vidéo climato-sceptique. Je ne dis pas qu'il faut censurer ces vidéos climato-sceptiques. Ce que nous disons, c'est que cette visibilité donnée à certaines propositions intellectuelles est problématique et de nature à faire dévisser le jugement, en quelque sorte, de nos concitoyens qui ne sont pas forcément experts sur ces questions. Donc, nous essayons d'attirer prioritairement l'attention, à la fois d'ailleurs des journalistes, mais aussi des grandes plateformes, de tous les diffuseurs d'informations, pour tenir compte à la fois de la diversité essentielle en démocratie, mais faire en sorte que cette diversité soit authentique, c'est-à-dire qu'elle représente en quelque sorte proportionnellement ce qu'elle pèse vraiment, par exemple dans le débat scientifique, quand il s'agit d'une question scientifique comme le réchauffement climatique.
Gérald Bonheur, lors de ses vœux à la presse, Éric Zemmour a dit, je le cite, que les journalistes ont, avec Internet, perdu le monopole de l'interprétation de l'actualité et du monde. Il ajoute, j'y vois une formidable victoire de la démocratie et de la liberté contre l'idéologie. Comment vous recevez ces propos ?
La première partie, la prémisse, je dirais, du raisonnement me paraît exacte. C'est vrai que les journalistes ont perdu le monopole de l'éditorialisation du monde. La deuxième me paraît catastrophiquement fausse. Cette conclusion est totalement fausse. Non, cette éditorialisation est faite aujourd'hui. Et c'est ça l'erreur, si vous voulez, que beaucoup
font. Par des
font.
Algorithmes, c'est ça ce que vous dites.
C'est ça. C'est-à-dire qu'on, les
c'est
défenseurs.
L'algorithme qui fait le choix de ce que vous avez sous les
absolument.
Yeux.
Absolument. Il n'y a pas de monde de l'information qui est absolument neutre. Ça n'existe pas. Simplement, auparavant, c'était les journalistes qui décidaient de mettre ça en une, etc. On peut contester le choix des journalistes, mais il y avait quand même une rationalité derrière ces choix. Or là, la rationalité des algorithmes, c'est d'attirer notre attention, j'en avais parlé dans Apocalypse Cognitive, c'est-à-dire que ce qui intéresse les grands opérateurs du net, c'est ce qu'ils appellent la variable d'engagement. Qu'on reste sur les réseaux, qu'on soit attiré, et quelquefois, pas toujours pour les meilleures raisons, je vais vous donner un exemple, parce que nous avons auditionné beaucoup de gens, vous le savez, et nous avons notamment auditionné Frances Haugen, ce qui était la donneuse d'alerte.
La lanceuse d'alerte sur Facebook, on a entendu
absolument.
Dans le 7-9. Également.
Absolument. Et cette dame nous a rappelé que, par exemple, Facebook donnait un coefficient de 5 à l'émoticône colère par rapport à l'émoticône like. Ce seulement. Vous comprenez bien que dans ces conditions, il y a une grande probabilité de chance pour que des contenus qui suscitent notre colère, notre indignation, ben, vont être mis sur le devant en première page du journal, si je puis dire. Donc non, l'éditorialisation algorithmique, elle est simplement, on n'en comprend pas toujours la logique, mais elle nous enferme, elle devait nous servir, et elle est en train de nous asservir.
Alors maintenant, on fait quoi? Vous dites qu'il faut faire du développement de l'esprit critique une grande cause nationale et associer fermement l'école pour y parvenir. L'esprit critique, grande cause nationale, c'est assez déroutant sur le papier, ça veut dire quoi?
Alors, oui Nicolas, ça c'est un point très important, parce que c'est peut-être un des leviers qu'on a encore dans nos mains, en quelque sorte. De ce point de vue, nous avons encore notre destin national dans nos mains, parce que sur tous les autres sujets, parmi les algorithmes dont nous venons de parler, ben nous dépendons quand même de la bonne volonté des grands opérateurs du net, ce qui est un problème. Bon, ce qui est en train de se discuter en ce moment, même au niveau de l'Europe, mais on y reviendra peut-être. Oui. En tout cas, sur cette proposition, elle est mise en avant, c'est peut-être la première proposition en effet que je mettrai en avant, parce qu'elle dépend de notre volonté politique en l'occurrence, et elle s'inscrit aussi dans les conclusions de la science, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parcouru, puisque c'était une demande du président de la République, de faire l'état de l'art scientifique sur la question, et s'il y a bien une variable qui prédit le fait que nous soyons capables d'endosser des fausses informations, c'est ce qu'on appelle dans la littérature, excusez-moi cet anglicisme, je le traduis tout de suite là, lazy thinking, c'est-à-dire la pensée paresseuse en quelque sorte. Nous avons tous des outils rationnels à disposition dans nos esprits, mais nous avons tous aussi une capacité à nous laisser aller à des faux raisonnements, à des raisonnements intuitifs, etc. Donc, ce que permet le développement de l'esprit critique, c'est d'aller chercher, je dirais, les outils qui sont en nous pour résister à cette lazy thinking et donc pour stopper une partie des flux, des fausses informations. Mais vous avez raison d'insister sur l'éducation nationale. C'est un moment clé, évidemment, de formation des esprits. Surtout quand on sait que c'est vers l'âge, environ, de 11-12 ans que les jeunes commencent à acheter leur premier téléphone portable et qui sont donc jetés dans ce monde numérique sans grande préparation. Mais c'est pas la seule classe d'âge qui est impactée.
Oui, parce que le quotidien Le Monde cite une étude de 2019 sur les personnes âgées de 65 ans et plus qui partagent deux fois plus d'articles faux sur les plateformes que les 45-65 ans, et même 7 fois plus que les 18-29 ans. Ça, c'est une mention du CSA. Est-ce vraiment l'école le problème?
Ah, je dis pas que l'école est le problème, je dis que l'école est une opportunité. Non, la jeunesse peut constituer un problème, parce que d'abord, ses capacités d'attention par rapport aux autres générations, elles sont en baisse, et parce que, plus que les autres, ils s'informent sur les réseaux sociaux. Mais par contre, concernant la diffusion des fake news, vous faites bien de rappeler cette étude qui avait été faite à Stanford, si je me rappelle bien. Et effectivement, en tout cas, cela explique la nature de notre recommandation. Il faut travailler au sein de l'éducation nationale très fortement, faire une priorité, mais ça devrait être une priorité nationale. C'est-à-dire qu'il faut profiter finalement de tous les moments, et ils sont nombreux dans la vie d'un citoyen, où on revient vers une formation, par exemple la formation continue, ou alors dans les réseaux d'éducation populaire, pour proposer, évidemment, sur la base du volontariat, les outils qui permettent en quelque sorte de regagner en autonomie intellectuelle face à ces flux algorithmiques.
Gérald Brunner, il y a un petit côté orwellien tout de même quand on entend esprit critique, grande cause nationale. Ça semble un peu lunaire.
J'entends votre objection, mais elle m'étonne en même temps, parce que je crois qu'au contraire, il n'y a pas de meilleure garantie de la liberté individuelle que de se doter soi-même.
Mais n'est-ce pas la fonction de l'école en tant que telle,
c'est
de développer l'esprit critique? Donc pourquoi en faire une grande cause nationale?
C'est tout à fait la fonction de l'école. La fonction de l'école, c'est d'apprendre à lire, à écrire, à compter, des éléments fondamentaux cognitifs, sans lesquels d'ailleurs il est impossible de développer l'esprit critique. La science le montre aussi, il faut absolument des bases solides. Mais cependant, vous oubliez quelque chose, c'est qu'il s'est passé, dans les dernières décennies, une révolution. Notre environnement informationnel, il a fondamentalement changé. Donc moi, je jette pas du tout la pierre à l'école. Il est normal que l'éducation nationale ne se soit pas tenue prête face à cette révolution. Il serait dommage qu'aujourd'hui, elle ne le fasse pas.
Trouvez-vous légitime que Donald Trump soit interdit de réseaux sociaux au nom de règles qui sont dictées par des entreprises privées? N'est-ce pas tout simplement un sérieux problème démocratique quand on sait que ces mêmes entreprises ne donnent pas accès à leurs algorithmes et à leurs données?
C'est un sérieux problème démocratique. Je suis pas du tout à l'aise avec ce genre de décision. Après, je l'analyse dans ses conséquences. Il se trouve que ce qu'on appelle la déplatformisation qui a touché pas seulement Donald Trump, mais beaucoup de membres de QAnon, par exemple, ou en France, des gens comme Alain Soral, Dieudonné, etc. Il se trouve que c'est efficace. Voilà, je ne le juge pas d'un point de vue politique et moral, mais ce qu'on a constaté, c'est qu'en effet, il y a une vraie perte d'audience et une perte d'influence de ceux qui se réclament de ces individus, et donc une diminution du nombre de fausses informations qui sont émises. Cependant, la vraie inquiétude, Et on en revient à ce que je disais de façon introductive, c'est que cette déplateformisation, c'est très dur à dire le matin, pardon, elle peut aussi susciter un univers alternatif. Et on voit que Donald Trump propose d'ailleurs son propre réseau social, qui devait commencer en janvier, je sais pas si ça va être le cas. Et avec ses dizaines de millions de followers, il pourrait peut-être atteindre la masse critique pour donner à cet univers alternatif le poids qui lui permettrait de concurrencer d'autres grands réseaux sociaux. Et là, ce serait terrible, parce qu'on imagine bien que les règles de modération ne seraient pas du tout les mêmes, et cela confirmerait l'éloignement des continents, si je puis dire, qu'on observe aux États-Unis.
Gérald Bronner, il y a tout de même un problème profond, très profond. Croyez-vous que si vous mettez une étude scientifique sur le vaccin anti-Covid sous les yeux d'un anti-vax, il va courir dans un centre de vaccination?
Je crois tout l'inverse. Je pense que je démontre dans mes travaux tout l'inverse, donc non, je n'irai pas.
Alors comment on fait? C'est vous qui avez présidé une commission.
Absolument. Eh bien, d'abord, il faut se rendre compte que la personne que vous appelez anti-vax n'a pas toujours été anti-vax. Et peut-être que ça aurait été utile de lui parler avant qu'elle le devienne, n'est-ce pas? Donc quand on parle de développement de l'esprit critique, on parle de la chose la plus préventive qui soit. Encore une fois, se doter des outils d'autonomie intellectuelle, ça ne peut pas être liberticide. C'est même la régulation la moins liberticide du marché qu'on puisse imaginer. Et ensuite, on a une partie de nos concitoyens, c'est vrai, vous le dites, qui sont déjà là-dedans, qui sont dans des croyances. Ils ne représentent pas grand-chose, hein, les vrais anti-vaccins. Ça, c'est un problème. Ils ne représentent pas grand-chose, mais vous avez remarqué qu'ils ont réussi à essaimer au-delà de leur espace de radicalité, précisément à cause de la configuration des réseaux sociaux. Mmh. Eh bien, il ne faut pas les abandonner pour autant. Mais il est évident, comme vous l'avez dit, qu'il suffit pas de les confronter à des statistiques, parce qu'ils ne croient pas dans ces statistiques. D'abord, ils savent pas toujours bien les calculer, ils ont des raisonnements qui sont faux. Et puis, surtout, ils croient qu'elles sont truquées, qu'elles viennent de journalistes menteurs, qu'elles viennent de politiques ou de laboratoires qui trompent. Et donc, le problème est difficile, mais j'insiste là-dessus. Ça reste nos concitoyens, il faut jamais l'oublier.
Voilà. Mais je vais formuler la question différemment. Comment expliquez-vous que des faits vérifiés, certifiés, on dit il faut fact-checker, il faut dénoncer ce qui est grossièrement manipulé ou subtilement manipulé, ça ne parvient pas à convaincre?
Mais parce que
quel est le mécanisme?
Le mécanisme est celui dit de la dissonance cognitive. En fait, la croyance est une forteresse. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire que quand vous avez une représentation des choses, toute négation de cette représentation vous fait violence. Parce que votre croyance, c'est un peu votre identité. Et donc, vous allez chercher des ressources, et le cerveau en a beaucoup, pour aller trouver des informations, des arguments qui vont contrer ce qu'on vient de vous dire. Et le problème, c'est que plus il y a d'informations disponibles dans un espace, plus vous avez de ressources pour protéger votre croyance. Et c'est exactement ce qui se passe dans le monde d'Internet, puisqu'on a produit dans les deux dernières années 90% de l'information disponible sur la Terre. Il y a donc une avalanche de disponibilité de l'information. Cette avalanche, elle permet aussi une forme de plasticité de la croyance, aller chercher des ressources pour défendre notre crédulité.
Vous dites que la prise du Capitole par les soutiens de Donald Trump a été une date importante pour vous. De nombreux reportages dans la presse américaine ont montré que bien des assaillants disaient agir au nom d'une démocratie à défendre, d'une démocratie à récupérer. Sont-ils dans le camp du mal? N'ont-ils pas, pour le dire encore autrement, un régime de rationalité qui peut ne pas plaire, mais qui est tout aussi cohérent qu'un autre?
Mais ils ne sont pas dans le camp du mal. Les anti-vaccins ne sont pas dans le camp du mal. Les anti-vaccins croient aussi, par exemple, faire le bien. Ils croient sincèrement que le vaccin est dangereux, etc. Donc il ne s'agit pas, encore une fois, de disqualifier moralement ces individus. Mais une fois que vous aurez dit, à juste titre, que ces gens ont des raisons de croire ce qu'ils croient, vous n'êtes pas obligé de leur donner raison. Les gens qui croient que la Terre plate ont des raisons de croire qu'elle est plate. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. C'est ça le problème du relativisme contemporain, c'est qu'on a confondu le fait que les acteurs avaient des logiques et des raisons de croire ce qu'ils pensaient pour préserver en quelque sorte leur sensibilité quelquefois et ne pas oser les contredire. Moi j'avoue, je ne vous étonnerai pas que je suis un rationaliste. C'est-à-dire, je pense que la norme du vrai et du faux, elle a un sens, même si la science ne peut pas l'atteindre, elle produit des énoncés qui sont plus probablement solides que d'autres énoncés. La Terre est probablement plus ronde que plate, par exemple. Eh bien, je pense qu'il ne faut pas céder de ce point de vue. Ce n'est pas faire offense aux croyants, parce qu'au contraire, je trouve qu'il n'y a rien de plus méprisant que de laisser des individus dans leur crédulité en leur disant « ça c'est bon pour eux ». Non.
Marie-Laurence, au Standard, bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Je vous en prie.
Le sujet est fort intéressant. Je précise que j'habite Conflans-Sainte-Honorine et que les ravages d'une information pêchée n'importe où et n'importe comment, on les a vus de très près ici. Donc je suis d'autant plus sensibilisée. Et la question subsidiaire que je me posais était la suivante. Ne peut-on, juridiquement, réprimer, taper sur les doigts de ceux qui, effectivement, je ne parle pas de l'individu nécessairement, bien sûr, mais au moins des systèmes qui sont en train de devenir des institutions, Google et autres, et qui diffusent ou laissent diffuser n'importe quoi, n'importe comment. Quand pourra-t-on enfin avancer sur ces questions?
Merci pour votre intervention, Marie-Laurence. Gérald Bronner, il y a évidemment des choses sur ce sujet. Dans le rapport, il vous répond.
Oui, merci Marie-Laurence pour cette question. Très brièvement, c'est une question suffisamment importante pour qu'on lui ait consacré un chapitre, donc elle est tout à fait pertinente. Globalement, notre position est de ne pas changer véritablement la loi de 1881. Il existe une loi en France, pas dans tous les pays d'ailleurs, qui nous permet de répondre justement à la diffusion malveillante d'informations de nature à troubler l'ordre public. Donc par exemple sur la question des vaccins, on pourrait se poser ce genre de questions. Donc effectivement, nous avons un arsenal qu'il faudrait prendre au sérieux, déjà, le mettre en activité. Nous proposons simplement un ajout qui est la possibilité d'attaquer aux civils des individus qui ont une influence numérique particulière. Et nous essayons d'avancer sur la notion de responsabilité numérique. Oui. En effet, c'est pas la même chose quand vous avez 2 millions de followers ou quand vous avez 100 followers de raconter des âneries, par exemple, sur le vaccin, qui peuvent être éventuellement mortifères. Donc oui, je vous incite à aller regarder notre rapport qui est, je le dis, en libre accès, sur Vie Publique. Allez le télécharger, il est gratuit, et vous trouverez toutes les suggestions que nous faisons sur ce sujet.
Bob, sur l'application d'Inter, que voulez-vous, Gérald Bronner? Une cyberpolice de la pensée, avec 3 points d'interrogation?
Évidemment, qui est question qu'on me pose sans cesse et qui m'obsède aussi, effectivement. Attention à ne pas verser dans des choses liberticides. Ce que j'ai envie de dire, c'est que les défenseurs de la liberté, à juste titre, qui sont très sensibles sur cette question, font quelquefois une erreur de raisonnement. Ils croient que ne rien faire dans le domaine, ça sera préserver les libertés. C'est tout l'inverse en réalité. Nous sommes dans des sphères algorithmiques et la meilleure chose que nous puissions faire d'abord, c'est d'en prendre conscience. Donc par exemple, de lire le rapport. Et ensuite, admettre qu'une forme de régulation est plutôt de nature à préserver nos libertés que les altérer.
Dernière question, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a annoncé sa volonté d'aller vers un Internet immersif, le métavers où nous vivrons et évoluerons comme dans le réel, sauf que ça n'est pas le réel. Cette perspective, comment la voyez-vous? Est-ce que le pire est à venir?
Alors justement, c'est amusant parce que ça fait partie de notre 30e recommandation et dernière recommandation. Nous pensons que jusqu'à présent, nous avons été trop réactifs. C'est-à-dire que nous réagissons aux propositions de la technologie, or nous pourrions dans certains cas l'anticiper. Et là, le métavers, c'est une anticipation, vous allez me dire, c'est pour demain que nous pouvons faire. Il va y avoir de terribles problèmes de modération. De l'aveu même des gens qui sont en train de mettre au point le métavers, parce que vous imaginez bien, par exemple, que les formes de harcèlement qu'on peut retrouver dans le monde des réseaux sociaux vont prendre une valeur toute particulière quand vous serez immergé dans un monde. Donc le caractère immersif de ce monde est particulièrement préoccupant. Moi, je ne suis pas pour dresser de la catastrophe technologique. Je suis plutôt technophile d'ailleurs que technophobe, si on doit me faire un reproche. Mais il n'empêche que, effectivement, nous recommandons d'anticiper, d'avoir une réflexion prospective sur ces questions. C'est un vrai sujet.
À lire donc ce rapport, Les Lumières à l'âge numérique. On indiquera le lien sur le site internet du 7-9. Merci Gérald Bronner d'être venu nous en parler. France Inter.